Alors les tourmenteurs vinrent à Gautier et Philippe Daunet qu'ils essayèrent de mettre debout. Comme ils ne pouvaient y parvenir, ils prirent dans leurs bras, ainsi qu'on prend des enfants malades, ces corps qu'ils avaient torturés et les portèrent jusqu'au cachot voisin. Le vieux château de Pontoise, qui ne servait plus que de capitainerie et de prison, se trouvait à une demi-lieue environ de la résidence royale de Maubuisson. Nogaret franchit cette distance à pied, escorté de deux sergents de la prévôté. Il marchait rapidement, dans l'air froid du matin, chargé des parfums de la forêt humide. Sans répondre au salut des archers, il traversa la cour de Maubuisson et pénétra dans le logis, n'accordant attention ni aux chuchotements sur son passage, ni aux airs de veillée mortuaire des chambellans et des gentilshommes dans la salle des gardes. « Le roi ! » demanda-t-il. Un écuyer se précipita pour le guider vers les appartements, et le garde des Sceaux se trouva face à face avec la famille royale. Philippe le Bel était assis le coude appuyé au bras de son siège, le menton dans la main. Des poches bleues se dessinaient sous ses yeux. Auprès de lui se tenait Isabelle. Les deux nattes dorées qui encadraient son visage en accentuaient la dureté. Elle était l'ouvrière du malheur. Elle partageait au regard des autres la responsabilité du drame, et par cet étrange lien qui unit le délateur au coupable, elle se sentait presque en accusation. Monseigneur de Valois tapotait nerveusement le bord d'une table et balançait la tête comme si quelque chose l'eût gêné au col. Le second frère du roi, ou plus précisément son demi-frère, Monseigneur Louis de France, comte d'Évreux au maintien calme, aux vêtements sans éclat, était présent également. Enfin se trouvaient groupés, dans leur commune infortune, les principaux intéressés, les trois fils du roi, les trois époux, sur lesquels venait de s'abattre la catastrophe en même temps que le ridicule. Louis de Navarre, secoué de quintes nerveuses, Philippe de Poitiers, roidi par l'effort de calme qu'il s'imposait, Charles, enfin, ses beaux traits adolescents ravagés par le premier chagrin. « Est-ce chose avouée, Nogaret ?» demanda Philippe le Bel. « Hélas, sire, c'est chose honteuse, affreuse et avouée. Faites-nous lecture. » Nogaret ouvrit la chemise de Vélin et commença. Nous, Guillaume de Nogaret, chevalier, secrétaire général du royaume et gardien des Sceaux de France par la grâce de notre bien-aimé sire le roi Philippe IV, avons, sur l'ordre dit-celui, ce jour, 25 avril 1314, entre minuit et prime au château de Pontoise, oui sous la question donnée avec l'assistance des tourmenteurs de la prévôté de la dite ville, les sires Gautier d'Aunay, bachelier de Monseigneur Philippe, comte de Poitiers, et Philippe d'Aunay, écuyer de Monseigneur Charles, comte de Valois. Nogaret aimait le travail bien fait. Certes, les deux Daunay avaient la borgnée. Mais le garde des Sceaux avait une manière de conduire les interrogatoires devant laquelle les scrupules de galanterie ne pouvaient tenir longtemps. Il avait obtenu des jeunes gens des aveux complets et circonstanciés. Le temps où les aventures des princesses avaient commencé, les dates des rencontres, les nuits à la tour de Nesle, les noms des serviteurs complices, et tout ce qui, pour les coupables, avait représenté passion, fièvre et plaisir, était énuméré, consigné, détaillé, étalé dans les minutes de l'interrogatoire. Isabelle osait à peine regarder ses frères, et eux-mêmes hésitaient à se regarder entre eux. Pendant près de 4 ans, ils avaient été ainsi bernés, roulés, enfarinés. Chaque parole de Nogaret les accablait de malheur et de honte. L'énoncé des dates posait à Louis de Navarre une question terrible. Pendant les 6 premières années de notre mariage, nous n'avons pas eu d'enfant. Il ne nous en est venu qu'après que ce Daunay est entré dans le lit de Marguerite, alors la petite Jeanne. Et il n'entendait plus rien parce qu'il ne faisait que se répéter dans un grand bourdonnement de sang qui lui bruissait aux oreilles « Ma fille n'est pas de moi, ma fille n'est pas de moi ». Le comte de Poitiers, lui, s'efforçait de ne rien perdre de la lecture. Nogaret n'avait pu faire dire au frère Daunay que la comtesse de Poitiers ait eu un amant, ni leur arracher un nom. Or, après tout ce qu'ils avaient avoué, on pouvait bien penser que ce nom, s'il l'avait connu, cet amant, s'il avait existé, ils l'eussent livré. Que la comtesse Jeanne ait joué un rôle de complicité assez infâme n'était pas douteux, Philippe de Poitiers réfléchissait. Considérant avoir suffisamment éclairé la cause et la voix des prisonniers devenant inaudible, nous avons décidé de clore la question pour en faire rapport au roi, notre sire. » Le garde des Sceaux avait achevé. Il rangea ses feuilles et attendit. Au bout de quelques instants, Philippe le Bel souleva le menton de dessus sa paume. « Messire Guillaume, dit-il, vous nous avez clairement instruits de choses douloureuses. Quand nous aurons jugé, vous détruirez ceci. » Il désigna la chemise de Vélin. « Afin qu'il n'en demeure trace que dans le secret de nos mémoires. » Nogaret s'inclina et sortit.